Les femmes, nous sommes le continent noir. Nous femmes esclaves et prisons nos entraves. Debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisées, les femmes et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout.
Debout, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais tout de suite commencer par le témoignage de Corinne Leriche, la maman de Julie. Julie qui s'est fait encore tout récemment réopérer au bloc opératoire pour la 15e fois, pendant que les 20 pompiers de Paris qui l'ont violée de ses 13 à 15 ans sont toujours libres. À 15 ans, elle avait eu le courage de déposer plainte contre 20 militaires pompiers de Paris pour viol et viol en réunion, alors qu'elle était mineure, de 13 à 15 ans, et en état de grande vulnérabilité. À 18 ans, envahie par un stress post-traumatique très important, accentué par un déni de justice intolérable, elle a tenté une fois de plus de se suicider en se défenestrant du troisième étage. 4 ans plus tard, et après une douzaine d'opérations de reconstruction, Julie a réussi à remarcher. Plusieurs opérations ont encore eu lieu depuis pour que Julie puisse remarcher le mieux possible. Aujourd'hui, elle reste handicapée à plus de 80%, alors que tous les pompiers ont reconnu des actes sexuels sur Julie. Aujourd'hui, 12 ans après sa plainte, lorsqu'elle avait 15 ans, qu'elle a eu le courage de porter plainte, aujourd'hui, la justice n'en a mis que 3 en examen. Même pas pour viol, même pas pour crime de viol, mais pour simple atteinte sexuelle. Et les 17 autres pompiers sont libres, dont 8 sont encore pompiers de Paris. Donc ce soutien au combat de Julie est essentiel et c'est pourquoi j'ai voulu recueillir ce témoignage de Corinne Leriche que je vais vous faire écouter, que j'ai coupé en 3 parties. J'ai presque pas. Donc ce témoignage, il va durer environ 3 quarts d'heure. Je pense que c'est ça vaut la peine d'écouter Corinne Leriche après 12 ans de calvaire, donc double calvaire de Julie, des viols donc à répétition pendant 3 ans, puis ensuite le double calvaire de non-reconnaissance du crime et de l'impunité des violeurs. Et je pense que voilà, il faut absolument soutenir son combat pour reconnaître les crimes perpétrés qu'elle a subis, pour lutter contre l'impunité. Cette affaire est emblématique pour nous toutes, car elle pointe le dysfonctionnement grave, mais je dirais gravissime, de la justice en matière de violence sexuelle contre les femmes et contre les enfants. Elle est symptomatique de l'imprégnation forte de la culture du viol dans l'esprit des policiers, et des magistrats. Donc voilà, sans plus tarder, je vous fais écouter la première partie du témoignage où je lui ai demandé de rappeler les faits pour ceux et celles qui ne savent pas.
Pour commencer l'interview, je pense que le point de départ, c'est peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de rappeler pour celles et ceux qui ne sont pas assez au courant de l'historique et du calvaire qu'a vécu Julie.
Alors, Julie, elle avait 13 ans. C'était une enfant comme les autres. Elle allait au collège. Elle était en classe de 4e parce qu'elle avait sauté une classe. Elle faisait du sport, elle faisait de la musique. Voilà, une enfant comme les autres. Elle aimait beaucoup lire et elle a fait une crise de tétanie au collège en classe de 4e. Les pompiers sont venus la chercher puisque le collège a appelé. Ils l'ont emmenée aux urgences. Et pendant ce trajet, le premier pompier, il y a un jeune pompier qui était à l'arrière avec elle, qui a pris ses coordonnées, puis qui l'a recontactée via les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'a commencé le calvaire de Julie, parce qu'il a commencé lui par la violer une première fois. Il est venu la chercher puisque Julie ne voyait plus personne. Elle s'est mise à partir de là à faire des crises d'angoisse, de tétanie. Elle ne pouvait plus aller à l'école, elle était en phobie sociale, donc elle ne sortait plus du tout. Et une fois, ce jeune pompier avait proposé de venir la chercher pour l'emmener dans un parc à côté de chez nous pour qu'elle sorte un peu, pour discuter avec elle éventuellement du futur métier de pompier. Donc il est venu la chercher. Alors au départ, on hésitait avec mon mari puisque Julie avait 14 ans. La première fois qu'il la violait, elle avait 13 ans. Mais là, elle avait 14 ans et puis voilà, on s'est dit, bon, c'est un pompier. On peut faire confiance, ça va peut-être lui faire du bien de pouvoir discuter avec lui. Donc, il est arrivé la chercher devant la maison en voiture, puisque nous, on avait dit qu'on voulait absolument le voir. Il est sorti habillé en tenue de pompier, ce qui nous a interpellés. On était très surpris. En fait, il arrivait d'une de ses gardes de la caserne de Bourg-la-Reine. Et je suis allée le voir devant le perron de la maison et je lui ai demandé ce qu'ils allaient faire. Donc, il m'a confirmé qu'ils allaient au parc de Sceaux à côté de chez nous. Je lui ai dit d'accord, c'est pour discuter, mais tu sais, Julie n'a que 14 ans et même ma flirte n'est pas envisageable. J'ai eu honte de lui dire.
Non, lui, c'est bien.
Lui m'a regardé d'un air complètement soi-disant offusqué en me disant « mais bien sûr madame, voilà ». Et en fait, il ne l'a pas emmené par dessous, il l'a emmené chez lui. Il s'était mis d'accord avec deux autres pompiers dans les Yvelines qui étaient des amis à lui, qu'il avait fait venir. Et Julie a poursuivi un premier viol en réunion chez lui. Elle était déjà très mal puisqu'il avait déjà violé à plusieurs reprises. Elle était donc déjà en stress post-traumatique en fait, et nous on comprenait pas ce qu'elle avait, donc elle se scarifiait tout le temps. Elle a fait de nombreuses tentatives de suicide. Elle avait déjà tenté de se défenestrer. Elle prenait des médicaments, un traitement très très lourd. Elle prenait des antidépresseurs anxiolytiques, neuroleptiques, puisque le haut de l'iceberg, c'était ces crises de tétanie qu'elle faisait pratiquement tous les jours, qui nécessitaient à chaque fois des hospitalisations parce qu'elle devait être perfusée aux Xanax pour que ça passe. Voilà, sinon ça pouvait durer jusqu'à 6-7 heures si elle n'avait pas de médicaments. Et elle souffrait parce que ça lui faisait des crampes sur tout le corps.
Donc, vous pouvez penser les crises de tétanie qui pouvaient provoquer ce mal-être et ces crises d'angoisse et sa dépression. En fait, vous ne pouviez pas forcément imaginer qu'il y avait autre chose. Quoi.
Ah, mais moi, on avait bien compris qu'elle allait très mal. Mais ouais. On ne comprenait pas de quoi elle souffrait.
Voilà. Ouais.
Et elle ne le disait pas. Et comme moi, elle ne sortait pas À part quelques rares fois, je ne comprenais pas ce qui se passait.
Ouais,
Et
ouais.
donc, cette fois-là, ils m'ont violée en réunion. D'ailleurs, Julie a expliqué qu'ils avaient pris une photo du viol en réunion. Alors, eux, bon, alors, voilà, il y a eu ce viol. Puis, ce fameux pompier Pierre, le premier pompier donc, qu'il a violé, qui était pour la reine. Et lui connaissait très bien son âge dès la première fois, puisque quand il la fout en intervention, et il y a eu plus de 200 interventions, à chaque fois il note la date de naissance, son âge, son numéro de téléphone, les médicaments qu'elle prend et son état de santé. Donc il savait pertinemment qu'elle était en dépression, qu'elle faisait des crises de tétanie et qu'elle prenait tous ces médicaments. Voilà. Et d'ailleurs, le jour du viol en réunion, elle s'était scarifiée avec une lame de rasoir et donc elle avait des points de suture. Et j'ai fourni tout ça à la justice, puisque j'ai récupéré les dossiers médicaux, etc. Et donc les trois pompiers l'ont vu, mais voilà, bien évidemment, ça ne les a pas arrêtés. Donc, ça se saurait si les violeurs s'arrêtaient. Voilà, au contraire, ils cherchent des
Ouais,
proies
j'allais
vulnérables.
dire exactement au contraire, il savait très bien du coup ce qui se passait,
Voilà.
quoi. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais.
Donc, ensuite, ce fameux Pierre a peut-être pris peur parce que il a après surtout donné le numéro de téléphone de Julie à d'autres pompiers. Et son numéro de téléphone a tourné parmi de nombreuses casernes. Et c'est comme ça que pendant 2 années, elle a subi de nombreux viols, dont 5 viols en réunion. Voilà. Alors pendant ces 2 ans, elle a essayé dans ses tentatives de suicide, elle a essayé de se pendre. Je l'ai récupérée. Oui, elle était carrément accrochée. Voilà, c'est acté dans les comptes rendus médicaux, hein, parce qu'à chaque fois elle a été emmenée à l'hôpital, elle a avalé des médicaments, elle s'est scarifiée un nombre de fois incalculable, elle a été hospitalisée, mais restée hein, à l'hôpital 11 fois quand même. Dont trois séjours en pédopsychiatrie, tellement elle allait mal. Voilà. D'ailleurs, ce fameux premier viol en réunion a eu lieu entre deux hospitalisations en pédopsychiatrie. Elle a été hospitalisée 3 semaines. Elle est sortie, c'est là qu'il l'a emmenée chez lui. Et elle est retournée 10 jours après le viol en réunion. Hospitalisée en pédopsychiatrie pour 3 semaines. Voilà. Ensuite, les viols ont continué jusqu'à ce quand elle a eu 15 ans, en juin, où là, elle a subi des viols en réunion terribles. Elle a été à nouveau hospitalisée en pédopsychiatrie dans Paris. Et là, où elle a d'ailleurs subi un viol pompier dans les toilettes de l'hôpital de pédopsychiatrie, ça c'est une parenthèse,
Ah non.
ils ont décidé de lui faire une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté tous les médicaments qu'elle prenait, parce qu'elle était complètement assommée par des quantités de médicaments incroyables.
Ils ont décidé
Et là,
de pardon, une quoi tu as dit?
une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils arrêtent tous les médicaments. Ça, ils peuvent le faire que à l'hôpital, hein, pour pas qu'elle se mette en danger, parce que arrêter tout d'un coup les antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques, etc., c'est pas neutre. D'ailleurs, elle avait pris 20 kilos. Enfin bon. Et quand ils ont tout arrêté, eh bien, elle a enfin pu me révéler. Qu'elle était violée par des pompiers. Voilà. Une fois qu'elle a pu cette camisole chimique
Ah
ce qui
ouais.
faisait que, ben oui, parce que c'est les
D'accord.
médicaments jouaient un rôle de camisole chimique, en fait,
D'accord.
qui l'empêchaient de se défendre, de parler. Elle dormait tout le temps, elle était très, très mal, voilà. Donc là, elle a enfin pu, en sortant de cette hospitalisation sans médicaments, me dire ce qui se passait. Et le jour où elle me l'a dit, le 30 août 2010, on est allé directement dans l'heure qui a suivi déposer plainte. On s'est avant arrêté à la caserne des pompiers. Et là, j'ai téléphoné avant aux pompiers et j'ai dit au chef de centre que, ben, en fait, elle était violée par des pompiers, dont Pierre. Voilà. Avant d'aller au commissariat, on s'est arrêté à la caserne. On était dehors en train de fumer une cigarette et ils ont été à 10 pour me retenir, enfin pour m'empêcher de. Si j'avais une arme, je l'aurais tué. Voilà. Si j'avais une arme, je l'aurais tué.
Pardon, voilà, je dis avant de poursuivre sur la suite du témoignage de Corinne Rich, je vais vous dire les mots de une des avocates de Julie, donc maître Lorraine Questiot. Elle dit: elle est devenue la proie de 20 jeunes hommes qui ont profité de leur fonction de pompier, du prestige de leur uniforme, de leur âge, pour entrer en contact, gagner la confiance et abuser d'une enfant. À 14 ans, ils l'ont violée en réunion, ils l'ont partagée entre eux comme un objet. C'est de la barbarie. Et pourtant, ce sont 22 jeunes hommes ordinaires qui ont accompli durant 2 ans ces violences avec une sidérante facilité. C'est cette banalité extrême du mal, ce mépris suprême de l'autre, qui puise sa racine dans l'idéologie patriarcale et dans ses fantasmes pornographiques, qui marquent quiconque à connaissance des faits. Et vous dire aussi, donc avant d'enchaîner sur la suite du témoignage, que c'était le 1er février dernier qu'il y avait eu encore la cour d'appel de Versailles et qui devait statuer, donc 12 ans après la première plainte de Julie, et qui a encore rejeté encore 12 ans dans une procédure calvaire pour obtenir justice. 12 ans après, cette cour de Versailles a encore rejeté la qualification de viol sur mineur. Donc je vais réenchaîner avec la suite du témoignage de Corinne Le Riche qui va vous raconter le calvaire donc le calvaire à partir du dépôt de plainte qu'elle a fait avec sa fille quand elle avait 15 ans et puis toutes les procédures qui ont continué pendant 10 ans et plus encore. Voilà, je vous fais écouter donc la suite.
Donc, ensuite, on est allé déposer plainte. Et là, le deuxième calvaire a commencé parce que, au bout de 5 jours, Julie a été convoquée par la brigade des mineurs de Créteil, moi aussi. Et là, elle a été interrogée par la police judiciaire de la brigade des mineurs, mais c'était honteux. C'est voilà. D'ailleurs, j'ai mis des extraits de PV sur mes réseaux, hein, où il dit t'as crié? Non, bah alors c'était pas un viol. Enfin, plein de choses comme ça. Elle est ressortie complètement démolie de ces 2 journées. D'ailleurs, j'informe les jeunes femmes et les mamans qu'il ne faut pas aller déposer plainte sans être accompagnée d'un avocat ou d'une association. Voilà, parce que après, c'est une catastrophe. Ils font dire ce qu'ils veulent pour les policiers mal intentionnés, et il y en a.
Ouais,
Ils
ils ont
font
des
dire ce
questions
qu'ils veulent.
des plantes qui te blâment, quoi.
Oui, ils posent des questions qui sont complètement fermées, qui impliquent une réponse que les juges après vont reprendre. Dans l'affaire de Julie, comme c'est 20 pompiers de Paris, il s'agit de 20 militaires. Et du coup, on se retrouve face à l'armée. Et tout est utilisé contre elle
Ah, ils reprennent tout
dans cette
ça,
parodie de justice. Oui,
c'est incroyable. Ils utilisent alors que
oui.
c'était
Oui,
complètement
oui.
à charge, mais les juges le réutilisent. C'est
Voilà. J'ai relu à nouveau hier, j'ai fini par relire le nouveau arrêt de la Cour de Versailles, alors qu'on est passé en cassation. Ça a été dit, redit. Dès que j'ouvre les premières pages de l'arrêt, d'un point de vue factuel, c'est faux. Dès la première ligne, ils disent « Julie a commencé ses crises de tétanie à 12 ans. » Non, on l'a dit, redit, redit, c'est faux. Elle avait 13 ans, c'est après avoir rencontré ce fameux pompier Pierre. Elle n'avait jamais fait avant une crise de tétanie. Je lis, Pierre est venu la chercher chez elle le soir et il l'a emmenée chez elle le soir, le jour du viol en réunion. C'est archi faux. C'était le matin, il était 9h. Voilà. Et c'est comme ça continuellement et c'est insupportable parce qu'il laisse croire qu'en disant qu'elle est sortie le soir, que c'était plutôt une jeune femme, alors que non, c'était une enfant. À 14 ans, il était hors de question que ma fille sorte le soir. Enfin,
ouais.
Il y a des témoignages. Donc, nous avons déposé plainte. 6 mois plus tard, moi, je suis enseignante, je m'étais dit, demain, ils vont tous être interrogés, convoqués par la police. Non, aucun.
Aucun.
Aucun. Donc, il a fallu 6 mois plus tard, aucun n'avait été convoqué. Pourtant, on dénonçait des faits de viol sur une mineure de moins de 15 ans vulnérable.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est moi. Et heureusement, comme je suis institutrice, que mon mari est avocat, on a des armes intellectuelles qui nous permettent de faire face à cette
ouais, à cette pas abandonné.
Situation. Ouais. Parce que si c'est quelqu'un de lambda qui… Voilà. Donc, nous avons écrit au chef au général des pompiers de Paris pour dénoncer tout ce qui s'était passé, voilà, sur une 20aine de pages. Et c'est suite à ça qu'il a fait une enquête interne, que les pompiers ont reconnu des actes de pénétration sexuelle sur Julie, dont ce fameux Pierre. Ils lui ont demandé de démissionner. Ils se sont dit, on va lui en servir un sur un plateau et puis ça va passer. Ils lui ont demandé de démissionner. Il a démissionné, mais les autres sont restés en poste. Voilà. Donc là, c'est moi qui ai écrit. J'ai téléphoné Non. J'ai appelé au niveau du greffier à Créteil, à Versailles, c'était Versailles à l'époque, en disant, voilà, il y a une enquête qui a été diligentée par les pompiers de Paris où ils révèlent, Pierre et les autres révèlent, je dis Pierre, non pas parce que je le connais, hein, parce que c'est quelqu'un que je ne connais, enfin, je l'ai vu quelques fois, mais pour, si je dis le pompier, comme il y en a 20, voilà, et je ne peux pas dire son nom de famille pour l'instant. Je leur ai dit qu'une enquête avait été faite chez les pompiers de Paris. Et là, le greffier m'a répondu qu'il n'avait pas les, c'était pas à eux d'aller chercher cette enquête. J'ai téléphoné aux pompiers. Je leur ai demandé s'ils pouvaient transmettre cette enquête à la justice. Ils ont dit que non, c'était à la justice de venir la chercher. Donc, ils ont refusé d'eux-mêmes. Normalement, quand il y a eu un crime de commis, ils sont obligés de tenir informé le procureur. Voilà, donc j'ai écrit au procureur en recommandé accusé de réception. Je l'ai informé de cette enquête et c'est enfin comme ça qu'ils sont allés chercher l'enquête, que la police a été chercher l'enquête et que les trois premiers du premier viol en réunion ont été mis en garde à vue. Voilà. Et là, on était en février 2011, c'est-à-dire 6 mois après.
D'accord.
J'ai fait le courrier en janvier et ils ont été mis en examen pour viol en réunion sur mineur de moins de 15 ans en état de vulnérabilité. Donc, 6 mois plus tard. Voilà. Et là, pendant 9 ans, on s'est battu. Ils sont restés mis en examen pour viol sur mineur, voilà. Pendant 9 ans, on s'est battu pour que les 17 autres soient mis en examen. Puisque les 17 autres, en fait, ce qu'il faut comprendre, et ce sur quoi la justice ment, j'accuse la justice de mentir, j'accuse la justice de mener à charge contre ma fille cette bataille judiciaire, ils n'ont jamais mis en examen les 17 autres pompiers. Ils n'ont fait que les entendre en audition libre. Donc, les 17 pompiers n'ont fait que relayer, que dire leur stratégie d'agresseur. C'est-à-dire, on trouvera un violeur qui va dire que... Alors, ils ont tous reconnu avoir eu des actes de pénétration sexuelle sur Julie.
Bon, ça
Tous.
devrait suffire pourtant, ouais.
Oui, puisqu'elle avait moins de 15 ans. Sauf que ils disent qu'ils pensaient qu'elle était plus âgée, qu'elle avait bien sûr plus de 15 ans, bien évidemment, puisque la loi, c'est 15
Ils
ans.
sont bien
Voilà.
renseignés.
Alors,
Ils sont
dans
bien
les
renseignés
17
sur les lois,
pompiers,
mais ils savaient très bien l'âge qu'elle avait, en fait. C'est ça que je vous disais.
oui, alors dans les 17 pompiers, il y en a plusieurs qui l'avaient faite en intervention à plusieurs reprises, qui connaissaient donc son âge. Et son âge et également sa vulnérabilité. Ils n'ont pas été mis en examen. Il y en a deux qui l'ont violée habillée en tenue de pompier pendant leur service. Donc, ils avaient autorité sur elle. Et
Bien
c'était
sûr.
pendant leur service. Ils n'ont pas été mis en examen. Il y a un pompier qui l'a violée, elle avait 14 ans, quand il est rentré dans sa caserne parisienne, il a donné le nom de Julie et ses coordonnées aux 10 hommes qu'il avait sous ses ordres, en leur disant, allez-y. Il y en a sur les 10, il y en a deux qui sont allés voir Julie qui l'ont violée. C'est eux qui ont témoigné que c'est ce premier, leur chef, qui leur avait donné les coordonnées. Ils n'ont pas été mis en examen. Et voilà. Et au bout de 9 ans, alors qu'on était en train d'essayer de se battre pour que les 17 pompiers soient mis en examen, le procureur a reçu une mutation dans les Antilles et là, il a déqualifié en atteinte sexuelle tout d'un coup. Complètement invraisemblable. Et les 17, ah oui, et les 17 pompiers, donc, comme ils n'ont été entendus qu'en audition libre, ils ont tous dit que c'était Julie qui les contactait sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Voilà, ça, c'est typiquement la stratégie des agresseurs. Eh bien, la Cour reprend systématiquement les 17 dépositions des
Leur
pompiers
discours à eux.
où ils disent que voilà que c'est elle qui les contactait. Bien
Bien sûr.
évidemment, ils ne vont pas présenter leur poignet pour se faire mettre en prison, parce que c'est la prison, hein, c'est crime, hein, c'est un crime, le viol est un crime, je le rappelle. Voilà. Donc, il y a même une dans cette terrible histoire, il y a, parce qu'en fait, c'est arrivé à Julie, mais ça arrive à des tas d'autres jeunes filles mineures, hein, vulnérables, les viols avec les pompiers. Il y en a plein la presse, hein. Quand on cherche, il y en a plein Internet. Et en
Oui, en
fait, ils
fait,
ont un
c'est
système de
emblématique de
rabatteuse.
plein. Voilà, c'est j'imagine qu'il y a plein d'autres victimes, effectivement, puisque ça a l'air bien huilé,
Oui,
leur système,
oui, oui, oui.
quoi.
Oui. Alors, ils ont un système de rabatteuse, en fait. Et Julie a été mise en contact avec une de leurs rabatteuses parce que quand elle, pour son stage de troisième, en fait, elle avait fait, c'était le début, elle avait fait son stage de troisième chez les pompiers de Paris. Et là, la rabatteuse est venue à la sortie. Cette rabatteuse, elle vient à la sortie quand ils sortent de Champéret à 18h ou à 17h, je ne sais pas. Voilà, et là, elle vient repérer les jeunes recrues. Et là, c'est elle qui a mis Julie en contact avec aussi un certain nombre de pompiers. Elle le dit, hein. Elle faisait partie de la Croix-Rouge. D'ailleurs, elle dit qu'elle a été violée dans les caves de Bourg-la-Reine, hein, par les pompiers.
Donc, c'est une femme, j'essaie de comprendre, c'est une femme pompier elle-même ou...
Non, c'était une femme qui avait, enfin, c'était une jeune fille qui avait 18 ans, qui était à la Croix-Rouge française.
Oui.
Voilà. Et la Croix-Rouge, ils sont basés dans les casernes.
Ouais. D'accord.
Elles font leur garde dans les casernes. Voilà.
Ouais.
Et elle avait dit avoir été violée dans les caves de la caserne, par exemple, de Bourg-la-Reine, par les pompiers. Donc, au bout de 9 ans, on s'est retrouvé, parce que les ordinateurs et les téléphones de ces 17 pompiers-là auraient dû être saisis à l'époque. Ouais. Ils auraient pu regarder les échanges.
Oui.
Les échanges, parce que tout était... Mais bien sûr que non, ils ne l'ont absolument pas fait. Et Julie, elle ne dit pas que c'est elle qui les a contactés. Hein. Elle dit que c'est eux qui la contactaient. Et nous, moi, j'ai une preuve que j'ai donnée à la justice, que j'ai montrée à plusieurs journalistes, où j'avais imprimé une page Facebook où on voit sur une page, il y a 6 pompiers qui lui écrivent. Hein. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me réponds plus? On peut se voir, etc. Et malgré tout ça...
C'est toi qui fais tout le boulot de la justice, que la justice ne veut pas faire. Et en plus, tu leur fais le boulot, tu leur envoies. Et eux, ils continuent à ne pas prendre en compte tout ça.
Oui. D'accord. Les professeurs, parce que Julie, pendant un an et demi, elle n'a plus été scolarisée. Donc, à la maison, je faisais venir des professeurs du CNED pas du CNED, elle suivait les cours du CNED et je faisais venir des professeurs d'Acadomia pour lui donner des cours. Ils ont témoigné et elle a même des professeurs du collège où elle était qui témoignent, qui expliquent que Julie était une enfant introvertie, mal dans sa peau, qui avait beaucoup grossi, qui s'habillait de façon qui se cachait sous ses vêtements, qui ne parlait pas aux garçons. Tout ça, ce sont des PV d'audition récoltés par la police. Jamais, jamais, ils n'interviennent dans les arrêts de Versailles.
Non, d'accord. Jamais. Parce qu'en fait, ces PV, c'est
complètement à charge.
Voilà, en fait, ils contredisent le mythe de la Lolita qui est entretenue, le mythe de la culture du viol, que ce sont les jeunes filles qui pourraient, à 13 ans, aguicher les hommes. Oui. C'est un mythe de la culture du viol que l'on nous fait passer, grâce, par exemple, avec ce film-là, Lolita, dont on a détourné, ce qu'il racontait, cet auteur Nabokov, parce qu'en fait c'était pas ça qu'il racontait, lui il racontait une histoire de pédocriminalité. Enfin voilà, ça me fait penser à ça, ce mythe-là qu'on entretient. Et du coup voilà, c'est dingue quoi. Ces profs en fait, ils racontent autre chose que ce mythe quoi.
Complètement.
Voilà.
Complètement.
Et du coup non.
Y compris, Alors, ils font semblant, ils décrivent une enfant, ils décrivent une jeune femme alors qu'il s'agissait d'une enfant. Qui n'était pas Julie. Voilà. Ils lui ont créé un personnage et ça, c'est immonde. Alors, bien sûr, dans tout ça, on s'est retrouvé avec Versailles à demander à Paul Bensoussan de faire son expertise psychiatrique. Voilà, c'est ce même Paul Bensoussan qui avait dit que les enfants outre mentaient. C'est ce même Paul Bensoussan qui a dit que l'assassin de Sarah Halimi était fou et que donc il ne pouvait pas répondre de ses actes, voilà.
Un psychiatre qui prône aussi le SAP, le syndrome d'aliénation parentale,
Voilà. Donc, il a écrit 140 pages sur Julie. Hein. Les violeurs de Julie, les seuls 3 pompiers qui ont été mis en examen, eux, ils ont été expertisés il y a une page et demie, c'est-à-dire un recto et un demi-verso sur eux. D'accord. Et Julie, la victime, il y a 140 pages. Voilà. 140 pages de blabla.
D'accord.
Pareil, elle est suivie depuis ses 15 ans maintenant par Muriel Salmona, hein, sa psychiatre, qui est quelqu'un spécialisé dans le stress post-traumatique, etc.
Oui.
Bensoussan n'a pas voulu prendre en compte son analyse. Elle est quand même suivie par elle depuis des années.
Donc, Muriel Salmon n'a pas le droit de même de donner, enfin de parler de Julie, enfin ça pourrait pas.
Alors, nous avons fait une demande d'acte en demandant à ce qu'elle soit entendue par la juge d'instruction, puisque la juge d'instruction ne la convoquait pas, ne l'auditionnait pas. La juge d'instruction n'a pas ouvert la bouche. Donc, Muriel Salmona est arrivée,
Oui.
elle s'est retrouvée face au silence de la juge d'instruction. Elle a fait un monologue. Elle a dit tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle pensait à dire, hein, ce qui n'est pas évident quand on se retrouve seul, sans question ni rien. Et ça a été acté par le greffe, et voilà. Mais cette page, c'est pareil, cette audition, on n'en parle pas. Voilà. Donc le stress post-traumatique de Julie, puisque à 18 ans, elle s'est quand même défenestrée du troisième étage, hein, puisque maintenant elle est handicapée à plus de 80%. Elle va encore être opérée mardi prochain pour la septième fois de sa cheville. N'apparaît à aucun moment comme une preuve de viol. Non, rien ne fait, voilà.
Pour commencer l'interview, je pense que.
Ah, voilà. Voilà, donc je reviens avant de vous passer ensuite la troisième partie de son témoignage. Donc oui, cet expert psychiatrique, Paul Bensoussan, vous avez entendu, qui a fait 140 pages d'un rapport psychiatrique sur Julie, alors que les violeurs, eux, ont été entendus en audition libre, et il y a une page sur les violeurs. Eh bien, cet expert psychiatrique, oui, est malheureusement bien connu pour utiliser des concepts qui ne devraient pas être autorisés enfin, qui n'existent plus en psychiatrie. Par exemple, il fait référence à l'hystérie, à la Charcot. Il évoque même des états de transe et de possession pour Julie, alors que l'hystérie a été retirée du DSM-4 en 1952. Donc, c'est une expertise, une honte totale. Ensuite, dans son expertise, il a nié les conséquences psychotraumatiques d'un viol, si celui-ci est perpétré par un homme qu'on connaît. Alors, les victimes d'inceste et de viols pédocriminels commis dans une immense majorité par des hommes de l'entourage apprécieront. C'est totalement faux, selon la définition de l'état de stress post-traumatique du DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il utilise aussi là j'en ai parlé, c'est pas le cas pour Julie, mais le syndrome d'aliénation parentale. Donc c'est quelqu'un de connu pour ça, donc ce syndrome qui n'existe pas non plus, qui a été inventé et qui est utilisé contre les mères protectrices qui dénoncent par exemple l'inceste. Eh bien, c'est un syndrome qu'on invente pour dire voilà, la mère a aliéné l'enfant et l'enfant ne dit pas la vérité, etc. Ensuite, je voudrais aussi rajouter, donc elle a parlé du dernier juge, et bien que oui, il y a eu 10 ans de procédure, donc d'une instruction qui a vu se succéder trois juges d'instruction, dont le dernier a organisé des confrontations entre Julie et les agresseurs sur 2 jours de suite, en contraignant la jeune fille à affronter ses bourreaux le matin, puis l'après-midi et les lendemains. À 18 ans, Julie s'est donc défenestrée du troisième étage et reste handicapée à plus de 90%. Une telle pratique est violente et très traumatisante pour la partie civile. Le juge, peu de temps avant d'être muté, déqualifie ces viols en atteinte sexuelle. Donc, je vais vous faire écouter la troisième partie, donc, et dernière partie du témoignage, donc, de Corinne Le Riche.
Donc, la justice a décidé qu'elle n'était pas à déqualifier en atteinte sexuelle, que les 17 pompiers n'étaient pas mis en examen. Donc, nous avons fait appel auprès de la Cour de cassation. Et donc, la Cour de cassation vient de se prononcer en disant que le premier viol de Pierre, ce n'était pas un viol. Voilà. Alors qu'il lui impose une pénétration buccale sans qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Elle avait 13 ans, elle le dit d'ailleurs, j'ai été surprise, elle n'avait jamais même eu un premier flirt. Hein, voilà. Donc ça, c'est ben non, finalement, ce n'est pas, voilà, c'est
C'est pas
qualifié d'atteinte sexuelle. À la corruption de mineurs, eh bien, ils disent que les pompiers disent que c'est
Julie qui est entrée en contact avec eux. Ça n'apparaît, ça, la preuve n'est nulle part. Aucun téléphone, aucun ordinateur a été saisi. Hein. Ça n'apparaît nulle part. Par contre, nous, on donne des papiers montrant que eux la contactaient. Voilà. Donc, ils disent que c'est Julie qui est entrée en contact avec eux, qui n'avait pas une volonté de la pervertir. Mmh. Voilà. Et que, pour la plupart, pensaient qu'elle avait plus de 18 ans. Donc, il n'y a pas de corruption de mineurs. Voilà. Allez, hop, circulez, il n'y a rien à voir. Donc, eh ben, on se pourvoit en cassation une nouvelle fois sur ces nouvelles décisions de Versailles. Voilà, on ne va jamais en finir. C'est un calvaire. Et on ne lâchera rien parce que grâce à la cagnotte qui est faite pour de justice pour Julie, hein, qu'a mis en place Sophia Sett des femelles, parce qu'on s'est ruiné. Avec la justice, depuis des années, on s'est ruiné. Parce que la justice, ça n'est pas gratuit.
Non.
Les violeurs en sont contents. Hein. La justice, ça n'est pas gratuit. Donc, il faut payer pour pouvoir... avoir justice qui est honteux. C'est honteux.
C'est vrai.
C'est honteux.
C'est vrai.
C'est honteux.
Bien sûr, c'est une façon de leur donner l'impunité et de ne pas rendre justice. C'est clair.
Oui. Oui.
Des victimes de viol. Alors, peuvent plus, bien sûr, si en
alors,
plus...
Alors, Julie, parce que du coup, on a déposé plainte auprès de... grâce à cette cagnotte, on a déposé plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et Julie a redéposé plainte, là, c'est que Julie, puisque maintenant elle a plus de 18 ans, a redéposé plainte contre les 17 pompiers avec constitution de partie civile. C'est-à-dire qu'en fait, avec constitution de partie civile, le juge est obligé, on verse une caution à la justice, la justice décide d'une caution qu'on verse, ça c'est 1800 euros quand même encore, hein. Et pour qu'un juge d'instruction soit nommé et instruise la plainte. Autre chose, dans l'arrêt de la Cour de cassation, dans les faits, dans la pédocriminalité, très souvent, les pédocriminels imposent des fellations aux enfants. Eh bien, la Cour de cassation, dans l'affaire de Julie, et la Cour d'appel de Versailles, dit, puisqu'il y a eu, alors notamment lors de ce premier viol en réunion, où on lui a imposé des fellations, ce qu'elle dit, qu'il lui a attrapé la tête par les cheveux de force, etc., ils disent, puisque pour faire une fellation, il faut être actif.
Ah bon ?
Donc, une fellation ne peut pas être un viol.
Ouais,
qui est complètement hallucinant. Et ce qui est gravissime. Et ce qui n'a toujours pas réveillé la population, le peuple.
Ouais.
C'est gravissime parce que les premiers actes qui sont commis sur les enfants, les plus courants, c'est les fellations.
D'accord.
Ils sont friands de fellation, c'est sale pourri. Voilà. D'accord. Eh bien, l'enfant, à partir du moment où il fait une fellation, il est actif, il est considéré comme actif, donc ce n'est pas un viol, c'est une atteinte sexuelle. Voilà, c'est... L'affaire de Julie, elle est emblématique de
notre culture.
Ah ouais, c'est terrible, c'est terrible. C'est redoutable, c'est redoutable.
Ouais.
Là, ce qu'ils ont fait, ça s'appelle une jurisprudence. C'est-à-dire que à partir de cette décision de Versailles, maintenant, les avocats violeurs pourront dire qu'il y a eu jurisprudence et remettre en cause le fait de pouvoir dire que bah, finalement une fellation.
Mais c'est un abyssal de je sais pas, même j'arrive pas à trouver les mots en fait, qu'ils arrivent à faire une jurisprudence pour empêcher la justice, quoi, pour alors que c'est assez récent que le viol est défini comme un crime en plus, et maintenant ils font des jurisprudences pour pas l'appliquer jamais, quoi, en fait.
et oui, que ça marche. Et c'est gravissime.
Ouais, c'est gravissime. Ouais.
Ouais. C'est gravissime parce que sur les enfants, la plupart du temps, la pénétration, elle est buccale, bien évidemment.
Ouais. C'est effrayant. Et ça me fait mal. À chaque fois que tu dis justice, tu sais, je pense que c'est pas, enfin, ça doit faire parler pour toi. Je me dis, mais c'est pas justice là. C'est juste que je ressens. C'est à un tel point que, ben non, en fait, ce mot, il est absurde là pour nous, les femmes. C'est pas justice. C'est pourquoi il faudrait arrêter de justice, quoi. C'est juste.
Quand je l'écris sur mes réseaux, je mets toujours des guillemets entre. Je mets toujours le mot justice entre guillemets parce que c'est. Ouais. Là, on se retrouve avec une enfant de la République de 13 ans, à partir de 13 ans, qui a été violée par 20 militaires.
Ouais.
Et l'État organise comme ça, avec la complicité de la justice, leur impunité totale, au vu et au su de tous. Donc, comment fait Julie pour se reconstruire dans tout ça ?
Ouais.
Heureusement qu'il y a ce mouvement féministe autour qui l'a porté, qui la porte avec, qui lui a rendu c'est même plus son humanité, c'est sa féminité, parce que pour faire partie de l'humanité, faut faire partie de des hommes et des femmes. Là, on s'en sent complètement exclu. C'est sur l'arrêt de Versailles là. À nouveau, ils écrivent « Julie a avoué avoir été violée. » A avoué, non. Les victimes, elles n'avouent pas avoir été violées. Elles révèlent qu'elles ont été violées. Voilà, la culture du viol des juges, elle est jusque-là. Elle est jusque-là.
C'est effrayant.
Oui, c'est effrayant.
C'est insupportable, c'est insoutenable, c'est terrible. Et je pense que il faut absolument, comme tu as dit, les associations féministes, tout ça, je pense que c'est un combat pour toi, pour Julie, pour ta famille, mais c'est un combat pour toutes, pour nous toutes. Il faut absolument qu'on le gagne, qu'on le fasse savoir, tout ça, on doit l'hurler, quoi. Oui. On peut pas vivre avec ça, toutes les femmes, on peut pas laisser passer ça. Je pense que c'est ça que voilà, quand je ferai passer ton témoignage, je pense que c'est ça que tout le monde doit comprendre, en fait. C'est que faut absolument qu'on gagne quelque chose et que ça devienne historique et que quelque chose change, quoi. Enfin,
j'ai un nombre de jeunes femmes incalculables qui m'écrivent en me disant, mais dans ces cas-là, moi, je déposerai jamais plainte.
Bien sûr. Ben oui.
Voilà.
Bien sûr.
Si Julie perd, toutes les femmes perdent. Et si on n'était pas tout le temps, je veux dire, si on avait. Moi, j'ai arrêté, j'étais institutrice, j'ai arrêté de travailler, je reste avec elle 24 heures sur 24 tout le temps pour ne pas qu'elle se suicide, pour ne pas. Elle faisait tout le temps, maman, de toute façon, j'aurais jamais 18 ans, j'arriverai à mourir, j'arriverai à me tuer. Si on n'avait pas été, elle serait plus en vie. Et là, c'est vraiment parce qu'elle a le bon Dieu au-dessus de sa tête, hein, parce qu'elle est restée vivante en se défenestrant du troisième étage.
Oui.
C'est voilà.
Quoi ?
Si j'étais pas là depuis le début pour mener ce combat, Julie, elle l'aurait pas mené toute seule. Elle, à 15 ans, elle a eu le courage de déposer plainte contre les 20 pompiers, etc. Hein. Mais de dénoncer les viols et tout. Mais vraiment, je prends une. Si elle n'avait pas été entourée comme elle l'est.
Bien sûr.
Et ben, je suis sûre qu'il y a des tas de Julie partout.
Oui, c'est ça.
Il y a des tas de Julie dans les cités.
C'est évident, là, ça me semble évident. Oui, c'est ça, là. Ça me semble évident maintenant à écouter. Puisque, voilà, vous avez. Enfin, tout ce que tu as fait, tout ce que vous avez fait, et ça se retourne. Complètement contre toi, c'est mensonge, c'est machin. Ça veut dire que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. C'est que...
Oui, oui.
Ouais. C'est sûr.
On a fait refaire une expertise psychiatrique à Julie par le biais d'un autre expert psychiatre, mais expert au cours auprès de la justice, qui est complètement en faveur de Julie, hein, et qui explique qu'il y a un lien entre ce qu'elle a vécu et son stress post-traumatique, donc qui contredit le rapport de Ben Soussan. Donc on va pouvoir s'en servir.
Ah.
Mais.
Ouais.
Mais franchement, je n'attends rien de la justice. Je n'attends rien. Mais on lâche pas, hein. On lâchera pas. Hein.
Ouais.
Mais sincèrement. Et c'est un scandale d'État, en fait.
Oui, c'est ça.
Scandale d'État.
Oui.
C'est un scandale d'État.
Ça, c'est pour ça que c'est. Ouais, c'est. Je suis d'accord.
Un scandale d'État.
Oui.
Donc, ensuite, on est allé déposer.
Voilà. Donc, c'est la fin du témoignage de Corinne Rich. Donc, oui, c'est un scandale d'État. Et, pardon, je suis très émue, mais j'espère que vous l'êtes autant, parce que c'était très fort, très poignant, très douloureux. Et, donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur les réseaux sociaux Corinne Rich, exemple Facebook. Moi, je suis que sur ce réseau-là. Et vous trouverez en ligne une cagnotte comme a dit Corinne, ces procès coûtent énormément d'argent pour aider à obtenir justice, puisque face à ce déni de justice, la famille Le Riche va effectuer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que de nombreuses jurisprudences récentes n'ont de cesse de sanctionner les États européens pour leur défaillance patente à sanctionner effectivement les auteurs de viols, tout particulièrement sur les mineurs. Voilà, que dire d'autre ? Je pense aussi à Julie quand elle a parlé du mouvement féministe, et c'était il y a un an, je crois. Justement, elle a parlé aussi de Sophia, des Femen, qui avait organisé donc... un événement pour faire témoigner Julie à Paris avec les avocates et tout plein de soutien. Et Julie avait eu cette phrase superbe. Elle avait témoigné et elle avait fini par cette phrase où elle s'adressait à ses violeurs. Et elle avait dit « Vous pensiez m'avoir tuée, à vous de trembler ». En refusant la peur, la honte, elle a piétiné tous ceux qui l'ont maltraité. Tout ça en deux phrases, presque un slogan. Donc, je vais faire une pause musicale. Avant ça aussi, c'est vrai que dans tout ce témoignage, ça m'a frappée de penser qu'il y a sans doute des tas d'autres Julie violées en général, mais violées notamment par des pompiers, puisque leur système de prédation a l'air vraiment huilé. Notamment, voilà, ça m'a interpellée l'histoire de la jeune fille rabatteuse qui existe et qui a témoigné, mais qui son témoignage n'a pas compté, n'a pas été retenu. Et du coup, aussi ce matin, avant de partir pour l'émission, j'ai regardé la page Facebook de Corinne Rich et j'ai vu qu'elle vient de partager un article de Marianne qui parlerait de ça, en fait, des violences sexuelles dans le milieu des pompiers. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de le lire. Je vais faire donc une pause musicale avec. C'est difficile de choisir. Bon, voilà, je vais prendre Nina Simone, For Women.
My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong enough to take the pain. Inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name
skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia.
Révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, je vais pendant ce témoignage, j'ai parlé du mythe de Lolita. Alors, je vais vous lire un petit texte extrait d'une publication de Muriel Salmona, qui est donc aussi la psychiatre de Julie et qui est une grande psychiatre qui est aussi abolitionniste de la prostitution, qui lutte pour faire reconnaître la mémoire traumatique, le stress post-traumatique, tous les traumas liés aux violences sexuelles, et qu'il est nécessaire de faire connaître pour pouvoir lutter et protéger les victimes, pour lutter contre la culture du viol. Et donc cette publication de Muriel Salmona, le titre c'est « Pour en finir avec le déni et la culture du viol en 12 points ». Je mettrai la référence dans le podcast. J'avais déjà lu une partie de cette publication qui est formidable. Et donc il y a le point 9 que je vais vous lire, qui s'appelle « Pour en finir avec le détournement des Lolitas ». Pour en finir avec le détournement des Lolitas pour justifier des violences sexuelles. La prétendue attitude de séduction des petites filles et des adolescentes vis-à-vis d'adultes ou de leurs pères fait partie de ces idées fausses et de ces détournements qui permettent d'escamoter la réalité des violences exercées sur les filles. 18% des femmes ont subi des violences sexuelles en tant que mineures, OMS 2014. Ferenczi Sándor, en 1932, parlait de confusion de langue entre les adultes et l'enfant, le langage de la tendresse et de la passion. En 1932, en décrivant le traumatisme que l'enfant subit quant à sa demande d'amour et de tendresse, le langage de la tendresse de l'enfant, il reçoit de la part d'adultes qui s'occupent de lui un comportement sexuel pervers de séduction, langage de la passion de l'adulte. Ferenczi parle d'un choc, d'une commotion émotionnelle en réaction à cette agression, qui entraîne un anéantissement du moi, cette commotion pouvant être physique et psychique, l'angoisse étant sa réaction immédiate. Une enfant, une jeune adolescente, que veut-elle ? Certainement pas être pénétrée, ni subir des attouchements sexuels par un adulte. Elle veut de la reconnaissance, de l'amour filial. Elle aimerait qu'un adulte la rassure, la trouve belle, intelligente, digne d'attention. Alors que ses enfants et ses adolescentes cherchent de l'affection, certains adultes en profitent pour retourner de façon perverse cette demande légitime en demande sexuelle. Il s'agit d'une immense escroquerie. Ces adultes trahissent la confiance des enfants en détournant leurs demandes pour leur propre compte. Un détournement du livre de Nabokov, le terme de Lolita est emblématique du grave détournement opéré d'une société qui prend pour argent comptant les mystifications des pédocriminels. Le titre du roman de Nabokov, Lolita, est devenu un nom commun désignant une adolescente séductrice qui piège par ses charmes un homme adulte qui ne pourra pas y résister. La perversion est du côté de l'adolescente et la victime du côté de ce pauvre homme. Pourtant, le roman de Nabokov est à l'opposé de cette mise en scène de l'adolescente séductrice. Lolita est une petite fille de 12 ans, victime de la stratégie diabolique d'un prédateur qui a jeté son dévolu sur elle dès qu'il l'a vue et qui, pour arriver à ses fins, va épouser la mère de sa proie. Il s'agit donc d'un inceste aux conséquences dévastatrices. Nabokov décrit avec précision le mécanisme perverse du prédateur Humbert Humbert qui est animé d'une volonté de transgression, de domination et de destruction qu'il va maquiller en amour. Le pédocriminel n'aime pas les enfants, comme pourrait le faire croire le terme mal nommé de pédophilie. Il les méprise en tant que personnes vulnérables, il veut jouir de leur corps, les dégrader, les salir, en les réduisant à des objets sexuels qu'il utilise quand il veut, comme il veut, peu importe les conséquences. Et pour les dégrader encore plus, quoi de plus cruel et monstrueux que de les rendre responsables de leur malheur à leurs yeux et à ceux de tous les autres, leur imposant ainsi une culpabilité et une honte infernale. Le tour est joué, toute défense et toute parole de la victime est cadenassée, elle est alors totalement à sa merci. Laissons la parole à Sokhna Fall, qui a écrit plusieurs articles sur ce roman pour remettre le monde à l'endroit. L'histoire de cette petite victime de papier me semble exemplaire de celle des enfants victimes d'agressions sexuelles et des représentations qui s'y attachent. Au premier détournement sexuel de Lolita par Humbert Humbert va succéder une série interminable d'autres détournements qui assignent éternellement cette adolescente, comme tant d'autres, à une place de victime accusée de sa propre victimation. Qu'en dit Humbert Humbert pour sa part ? Il avoue par exemple « Pourquoi sa façon de marcher, ce n'est qu'une enfant, notez bien, une simple enfant, m'excite-t-elle si abominablement ? Analysons-la, les pieds légèrement rentrés, une sorte de tortillement élastique en dessous du genou qui se prolonge jusqu'à la chute de chaque pas, une démarche un tantinet traînante, très infantile, infiniment racoleuse. » Humbert ne décrit nullement une adolescente amoureuse d'un quadragénaire qui cherche à le séduire par ses manœuvres perverses. Il décrit exactement comment c'est lui qui souhaite s'approprier l'innocente désinvolture de cette fillette. Ce que Lolita a de si racoleur pour Humbert, comme pour tous les pédocriminels, c'est son infantilisme, la pédophilie si mal nommée. S'il fallait encore une fois le clamer, avec la pédophilie la si mal nommée, il ne s'agit pas de sexualité ni d'orientation sexuelle, mais de l'exercice d'un pouvoir d'instrumentalisation et de destruction dans le cadre d'un rapport de force. Les violences sexuelles sont utilisées comme une arme hyper efficace, utilisée également dans les tortures, les crimes de guerre et contre l'humanité, pour détruire, nier la dignité et les droits d'une personne, la posséder et la réduire à une situation d'esclave sur laquelle l'agresseur a tout pouvoir et qu'il peut consommer quand il veut, comme il veut. La libido de la sexualité et de sa libération, du désir sexuel, de l'amour, de la tendresse, de l'éducation, est une mystification très efficace qui permet de s'assurer une impunité quasi parfaite pendant de longues années, de même qu'invoquer la prétendue responsabilité ou complicité de la victime. Les pédocriminels sexuels sont des prédateurs et ils savent très bien ce qu'ils font. Intentionnellement, ils organisent des pièges et des mises en scène qui ne laissent aucune chance à leur proie. Ils manipulent et enrobent leurs crimes de discours mensongers. Ils approchent les enfants masqués en mettant en scène qu'ils sont des adultes aimables, sympathiques, attentionnés. Et ils s'arrangent pour créer chez les enfants une admiration, une dépendance affective et une disqualification, tels que leurs sentiments d'angoisse et de terreur face aux violences sexuelles sont recouverts d'un rideau de fumée, d'incompréhension et de doute. Non, répétons-le, des actes sexuels commis sur des enfants n'ont rien à voir avec de la tendresse, de l'amour ou de l'éducation, ni avec du désir sexuel. Le but de l'agresseur est de se mettre en scène comme un tyran et de régner sans partage sur un ou des esclaves utilisés comme une drogue pour s'anesthésier et alimenter sur sa toute-puissance. Voilà. Alors, je vais enchaîner sur... donc c'est difficile d'enchaîner, mais sur... pardon, j'ai du mal à... Ouf. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé... Enfin, je sais pas comment enchaîner, en fait, mais je repense au 8 mars dernier. Du coup, ça va me permettre d'enchaîner. J'étais pas à Marseille. Et d'ailleurs, j'étais bien contente de pas l'être pour le 8 mars, en fait. J'avais pas tellement envie. Et j'étais au Maroc avec Betty Lashgar. Si vous la connaissez pas, mais c'est une grande pionnière féministe. Féministe radicale, critique du genre, critique des religions. Qui vit entre le Maroc et la France. Et vous pouvez retrouver un podcast qui parle d'elle, puisqu'elle était venue faire une émission. Voilà, donc pendant ce 8 mars, avec Betty au Maroc, on a fait des collages. Et on a fait un collage notamment pour dénoncer les proxénètes qui attendent les Ukrainiennes à la frontière polonaise pour... les faire rentrer dans des bordels. Voilà. Donc du coup, je voulais vous parler de ça. Et aussi, il y a la prostitution qui profite de tout, comme d'habitude, hein, de toute la misère et des guerres. Ça a toujours été le système prostitueur. Il y a aussi les esclavagistes de la GPA. Qui profitent encore de la situation aussi en Ukraine. Donc voilà, tirer profit de la guerre et de la misère, exploiter le corps d'une femme pauvre à des fins de reproduction, donc pour la GPA, voler le bébé réduit à une marchandise à coût de quelques milliers d'euros et s'envoler vers d'autres cieux, abandonnant la mère sous les bombes avec les seins pleins de lait, ses saignements, et se remettant de l'accouchement dans un contexte de guerre. Louer une femme et acheter un bébé pour réaliser leur caprice bourgeois de posséder un enfant, cela porte un nom, traite des femmes et trafic d'enfants, le tout sponsorisé par les médias, toute honte bue. Ce petit texte donc était écrit par Betty. Et donc voilà, on a beaucoup entendu parler de la promotion de la GPA dans les médias français, effectivement. Et je vais aussi vous lire donc par rapport à la GPA... Et un petit texte aussi de Anna Luna Stoicea Deram, donc qui est à la SIAMS, qui lutte contre la GPA. Et elle répond à un article qui est paru récemment, un article de 20 minutes. Dans cet article, on voit des femmes, donc je vous cite un petit extrait de cet article, qui dit « Bien sûr, Marie et Pauline ont été meurtries par certains articles parus dans les médias qui qualifient dans l'angoisse des parents d'intention... » Bon, je recommence. Alors, bien sûr, Marie et Pauline ont été meurtries par certains articles parus dans les médias qui qualifient l'angoisse des parents d'intention d'indécente au regard du sort des mères porteuses. Et dans cet article, il cite Marie, donc une mère d'intention, qui dit « Certes, les mères porteuses reçoivent de l'argent de notre part, mais c'est parce qu'elles ne peuvent pas travailler. Et il faut rappeler qu'elles portent un embryon, mais qu'elles n'ont aucun lien biologique avec lui puisqu'il ne s'agit pas de leurs ovocytes. » Les mères gestatrices et les parents d'intention sont des dommages collatéraux de la guerre. Waouh. Il faut nous aider, renchérit Pauline. Ok. Donc voilà ce que répond Anna Luana Stoicea Deram, mais je la remercie énormément. Donc elle fait le point pour répondre à ça. Voilà ce qu'elle dit donc en 7 points. Premièrement, non, les parents d'intention ne sont pas des dommages collatéraux de la guerre. Quand ils sont allés en Ukraine commander des enfants, le pays était déjà en guerre depuis près de 8 ans. En tant qu'adulte, ces personnes le savaient. Deuxièmement, les mères reçoivent de l'argent de la part des commanditaires parce qu'elles ne peuvent pas travailler, dit-elle. Donc on profite du fait qu'une femme ne peut pas travailler et on lui demande de porter une grossesse contre de l'argent pour abandonner l'enfant à la naissance. Comme dans la prostitution, une femme a faim, tu lui proposes de lui mettre ton pénis dans la bouche. En GPA, si elle a faim, et surtout pas de travail pour nourrir ses enfants, tu lui demandes d'en faire d'autres pour les remettre contre de l'argent. La misère et la guerre ont toujours profité du marché. Troisièmement, une femme porte un embryon. Non, non, elle est inséminée avec un embryon. La transformation de l'embryon en fœtus et ensuite en enfant est exclusivement due à la mère. Si l'enfant existe, c'est uniquement grâce à la mère. Un embryon n'est pas un enfant. Quatrièmement, si c'est pas ses ovocytes, la mère n'aurait aucun lien biologique avec l'enfant. Ce qui voudrait dire que les femmes qui deviennent enceintes et qui ont des enfants grâce à des dons d'ovocytes ne sont pas les mères de leurs enfants, puisque ces enfants ne sont pas issus de leurs ovocytes. Merci pour elles. Le biologique prime sur tout. 5. Des liens se créent entre la mère et le fœtus, et les traces de ces liens durent pendant des années dans le corps de l'une comme de l'autre, ineffaçables, même pour de l'argent. 6. Le nouveau-né ne connaît rien d'autre que le corps de sa mère, de celle dans laquelle il est devenu un futur être humain. L'enfant n'a pas signé de contrat, ni décidé de se séparer de sa mère. On le lui impose, à sa naissance. En cadeau de bienvenue au monde, la séparation abrupte est définitive, parce qu'on a très envie de la voir. 7. Mettre sur le même plan les risques encourus par les mères et ceux des commanditaires. C'est cela l'indécence, étalée au grand jour, oser se comparer à la femme exploitée. La propagande médiatique de la vente d'enfants, encore et encore. Exploitation de la pauvreté et de la guerre, au profit du marché des êtres humains. Aucune honte. La GPA, c'est de la vente d'enfants. Quand elle est faite en contexte de guerre, c'est encore pire. Voilà, donc, exploitation de la pauvreté et de la guerre au profit donc du marché des êtres humains, donc du marché de la prostitution. Voilà, donc je vais citer aussi AFAF, qui dit « Entre les mecs qui attendent la sortie des vidéos de réels viols des Ukrainiennes sur Pornhub et compagnie, entre les soldats russes qui violent des Ukrainiennes, entre les femmes mères porteuses laissées de côté comme un déchet par ses parents commanditaires venus y récupérer leurs marchandises humaines et qui se foutent de leur sort, entre les proxénètes allemands aux frontières ukrainiennes qui prétendent être là pour aider, mais ils n'y sont que pour les recruter dans leur marché prostitueur. » Voilà, je vais citer aussi Johanna du collectif Abolition Porno-Prostitution qui a récemment été à Biarritz avec une pancarte qui disait « Urgence, des proxénètes attendent les Ukrainiennes aux frontières pour les emmener dans des bordels, prostitution égale viol ». Voilà ce qu'elle dit. Elle dit donc, c'était il y a quelques jours, « j'étais à Biarritz, j'étais la seule à venir avec une pancarte sur laquelle j'alertais de la situation des Ukrainiennes ». Toutes les autres brandissaient des drapeaux, des fleurs. Mais on parle d'une guerre dans laquelle le viol et la prostitution sont des outils de destruction et de domination. J'étais la seule à prendre mes ovaires et à parler de ce que personne ne veut voir. En face de moi, Frédéric Beigbeder, écrivain bitard, célèbre pour avoir signé la tribune « Touche pas ma pute », a ri en me voyant, en lisant ma pancarte. La traite sexuelle, c'est drôle ? C'est ça les soutiens au peuple ukrainien ? Des violeurs assumés ? Bref, c'est en Europe, mais c'est toujours les autres. Vous savez où vous voulez mettre vos fleurs. Update, mais j'allais oublier de dire que j'ai fait deux super rencontres, deux femmes avec qui j'ai fait toute la marche et que j'espère revoir. We are one people. Voilà, et je vais finir sur ça en citant Maria Montessori qui a dit « Tout le monde parle de paix, mais personne n'éduque à la paix. On éduque pour la compétition, et la compétition marque le début de toutes les guerres. Quand on éduquera pour la coopération et pour nous offrir les uns et les autres de la solidarité, ce jour-là, alors, on éduquera à la paix. J'ajouterai les unes et les autres. Voilà. Alors, du coup, je vais juste enchaîner sur un épisode de Repel du genre, donc qui est un podcast des femmes critiques du genre. Et vous allez entendre Graziella. Voilà. Et comme ces podcasts, je vous mettrai la référence. C'est un podcast qui dure 40 minutes. Donc là, il ne me reste pas le temps de vous passer tout. Mais vous pourrez écouter au moins un quart d'heure. Et ça vous donnera certainement envie d'aller l'écouter chez vous aussi, tranquillement. Voilà. Je vous fais écouter tout de suite.
Graziella. Je suis noire. Je suis maman. Je suis écrivaine, je suis enseignante et je vis en Guyane.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
Moi, je vais situer ça à l'âge de 11 ans. Quand j'ai eu 11 ans, ma mère travaillait pour une association qui s'occupait de toxicos et elle avait laissé traîner des documents sur une table et il y en avait un qui parlait de drogue du viol et en fait, ça racontait que des hommes avaient pris des produits dans le milieu vétérinaire qui le mettaient dans le verre des femmes en boîte de nuit et que non seulement ben, elles perdaient conscience et qu'ils les utilisaient, ils les violaient. Mais en plus de ça, ça avait un effet sur elles parce que ça pouvait les rendre stériles. C'était un journal officiel, hein, c'était pas un truc anodin. Enfin, c'était une copie comme ça qu'elle distribuait pour avertir sur les drogues du viol dans les boissons. À partir de là, à l'âge de 11 ans, j'ai, on va dire, perdu toutes mes illusions sur les capacités des hommes à nous berner et à nous mentir pour essayer de nous avoir dans leur vie. Honnêtement, j'ai eu cette espèce d'impression de glace brisée avec un petit pic à glace. Ping ! Ah d'accord, ok, ils sont capables de faire ça. Et ça a commencé comme ça, cette espèce de prise de conscience que je suis pas en sécurité avec un homme, il faut que je fasse attention, il faut que je prenne mes précautions, que je vérifie, que je me méfie trois fois de ce qu'il me dit, et ça a commencé comme ça. Ensuite, dans mon parcours, on va dire ado, j'ai été marquée par des moments de sororité. On était un groupe d'amis, on était un petit peu bizarre, on a grandi dans un quartier chaud, on avait des copines qui chez elles recevaient la police parce que leurs parents avaient de la drogue chez eux. Enfin, c'était un truc un peu dur. Et c'était ce groupe de copines-là, on s'est soutenus entre nous, on s'est protégés entre nous comme ça. C'est-à-dire, on l'a fait de façon un peu voilà, anodine, mais en fait, en quelque part, c'est comme ça que je le vois, on s'est un peu sauvé la vie, quoi, parce que c'était dur, c'était pas évident du tout. C'est après, quand j'ai grandi, que j'ai compris que les filles qui se la pétaient le plus, genre je suis une femme, il y en avait deux, trois qui étaient prostituées par leur beau-père, par leurs parents et tout. Donc, on a vécu dans un quartier chaud, mais on a réussi à avoir une adolescence super joyeuse, super positive, parce qu'on s'est protégés. Et aussi, la sororité, je l'ai vécue parce que mes parents se sont séparés. Mon père commence à devenir un peu violent. Il n'a pas été tout au long de la vie de mes parents, mais quand ils ont commencé à se disputer, ça n'allait plus du tout. Et à un moment, il a carrément mis ma mère dehors. Et c'est un groupe de copines, elles sont débarquées à deux voitures. Et c'était à 5-6, je ne sais pas. Elles sont arrivées, elles nous ont dit, c'est bon, vous prenez vos bagages, on part. Et elles nous ont emmenées. Donc, on ne s'est pas retrouvées à la rue, on ne s'est pas retrouvées toutes seules. Parce que voilà, il y avait encore... ce moment de sororité-là qui nous a aidés. Donc voilà, j'ai grandi un peu là-dedans, en partant de ça, avec cette conscience-là, avec fallait me méfier des hommes, il y a toujours un gars bizarre, c'est quand t'as 12 ans, c'est bizarre, c'est à ce moment-là qu'ils veulent te toucher. Enfin, pourquoi ? Donc après, j'ai grandi, j'ai fait mes études, etc. Et puis, il est arrivé en 2018, la première année de la manifestation Nous Toutes, il y avait l'histoire des gamines 11 ans, 13 ans, même pas, qui ont été violées par des adultes. Et à chaque fois, dans le procès, il y avait cette espèce d'idée débile du juge qui disait « Tu t'es pas débattu, c'est pas un viol, quoi. » Et c'est à partir de ces histoires-là, notamment, il y avait une petite fille, ils ont caché son nom, mais le gars l'a harcelée sexuellement 3 jours. Et ensuite, il l'a violée. Et comme elle s'est pas défendue, on lui a dit « Mais t'étais d'accord. Oh là là, elle fait plus vieille. » Enfin, tous les trucs débiles qu'ils ont sortis à l'époque. Et comme elle était guadeloupéenne et que je sais dans ma culture, on nous enseigne la politesse envers les adultes. On dit pas un adulte espèce de machin, on dit pas ça. On dit bon ben bonjour monsieur, même si on le rejette parce que voilà, on a compris que c'était un vieux tordu. On rejette pas les gens comme ça. Et comme cette petite est guadeloupéenne, ça m'a tellement choquée qu'on traite sa politesse, son respect des adultes comme du consentement, que ça m'a mis en colère et que je me suis rapprochée de nous toutes pour organiser la première manifestation. C'était super bien fait. C'était horizontal. On était en contact. Moi, j'étais la seule dans tous les DOM à organiser un truc. Il n'y a que la Guyane en 2018 qui a organisé une marche Nous Toutes. Ça a été épuisant. Je suis passée dans les radios, je suis passée dans des trucs et tout. Il y a des gens qui ont été vraiment, on va dire, touchés par ce que je disais. et qui me remerciait. Je leur dis, mais j'ai rien fait, vous savez, je suis juste en train de parler d'une situation que on a le plus fort taux de grossesse adolescente, on a le plus fort taux de viol sur mineur, on a des problèmes de prostitution sur mineur en Guyane. Il y a rien qui est fait. Il y a rien. Les statistiques, elles ont 7 ans maintenant. C'est super vieux. Et pourtant, j'entends, je connais des policiers qui disent on a des gamines de 9 ans enceintes, on a des gamines de 11 ans violées, on a tout ça ici. Donc, je voulais, j'étais super motivée. Donc, j'ai fait la manif. Nous toutes, il y a du monde qui est venu. C'était, il n'y avait pas grand monde, mais c'était fort comme moment et tout ça. Et là, je commence à me sentir mal à l'aise parce que les discours de nous toutes commencent à changer. Et à cette époque, j'étais abonnée, Cosette, Mediapart, toute la clique, je lisais que ça. Et je vois le mot inclusif qui apparaît. J'étais pas contre forcément parce que j'avais cette idée que ben, les femmes trans, bon, voilà, c'était des hommes, elles sont devenues femmes. Parce que pour moi, voilà, la transition faisait que c'était des femmes, point. Et puis, il faut qu'on s'entraide par rapport à la violence des hommes, etc. Mais ça me gênait un peu parce que j'avais cette impression bizarre qu'ils distinguaient pas les femmes trans des femmes. Parce que dans ma tête, c'est, ouais, mais on n'est pas tout à fait pareil non plus, quoi. On a des trucs qui les concernent pas. Donc, je veux bien être inclusive, mais il faut quand même qu'on distingue. Et ils avaient envoyé une espèce de questionnaire pour dire, alors, vous pensez quoi, Timo, inclusif? Et j'avais répondu clairement, je suis pour qu'on soit inclusif, mais je ne suis pas pour qu'on nivelle, je ne suis pas pour qu'on efface les différences. Moi, je suis désolée, enfin, le féminisme n'est pas un uniforme, donc je suis pour, mais on a des différences qu'il faut respecter, que chacun, chacune, etc. etc. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce questionnaire. Tout ce que je sais, c'est que les pages Nous Toutes où j'étais en contact, tout est devenu vertical. C'était de Paris vers nous, il n'y avait plus de contact avec personne, il n'y avait plus de réunions où on se parlait ensemble. Je crois que c'est à l'époque où Karine II s'est arrivée. Et puis, il y avait aussi cette histoire du SRAS qui avait dit et nous, on est là, on est là. Et puis, je commençais à entendre parler de tiens, les travailleuses du sexe ont attaqué des abolitionnistes. Le message est arrivé vers nous en disant bon, on va faire en sorte de les séparer pendant la manif, mais c'est tout. Mais il n'y avait pas de condamnation. Il n'y avait pas de condamnation publique. Et puis, il n'y avait pas de rappel à l'ordre du genre vous êtes gentils, mais on ne se tape pas dessus. Il n'y a jamais eu ça. En 2019, je n'ai pas fait parce que je ne me sentais pas bien et que je me sentais mal à l'aise aussi. Et ça s'est confirmé en 2020 avec ce qui est arrivé avec Marguerite Stern. En fait, je la connaissais pas, Marguerite Stern. Je savais juste que c'était une femelle. J'avais pas une super bonne opinion des femelles. C'était fille seins nus qui crie. C'est tout ce que je voyais. Mais c'est un principe que j'ai depuis que je suis toute petite et en grandissant aussi. Je ne me fais d'opinion sur les choses qu'à partir de moi-même. Personne ne me dit ce que je dois penser. Et quand j'ai découvert l'histoire de Marguerite Stern, c'était à travers un post sur Mediapart où il disait « Pour un féminisme inclusif, elle est méchante, elle a dit des choses pas gentilles. » J'ai dit « Ok, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'ils ont dit « Oui, il y a eu quelques petits débordements sur Twitter. » Je me suis dit « Ils ont brûlé sa maison direct, c'est obligé. » Donc, j'ai été voir ce qu'elle a dit. Je me suis dit « Ben, je vais lire. » Qu'est-ce que je lis ? Moi, je ne veux pas bosser avec des gens qui se basent sur des stéréotypes pour définir ce qu'est une femme. Je ne bosse pas avec des gens avec qui on n'a pas les mêmes objectifs. Ils veulent afficher sur moi, je, moi, pronom, je ne sais pas quoi. Nous, on parle de féminicide. De quel droit vous harcelez les lesbiennes par rapport à leur sexualité ? Là, j'ai commencé à tiquer, j'ai dit lesbienne. Apparemment, et là, je découvre, ben oui, les femmes trans sont des femmes, donc si tu refuses à cause de leur partie génitale, ce n'est pas bien. Tu fais, ah bon, lesbienne, dis-y, ok. 4. Les collages sont faits pour lutter contre les féminicides. Il y a des gens qui les utilisent pour faire de l'apologie de féminicide. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. Et c'est là que j'ai découvert le mot TERF. Parce qu'en dessous, il y a plein de gens qui l'ont insulté. Et je me dis, c'est vrai qu'elle est un petit peu dure avec les trans, parce qu'à un moment, elle dit, moi, je suis une femme parce que je suis née qu'une vulve. Mais je me dis, en même temps, ce qu'elle raconte, il y a de quoi débattre, discuter, qu'on s'engueule un bon coup et qu'on se mette d'accord. Et j'avais cette naïveté que ce soit Cosette, Libé, Mediapart, c'est-à-dire les médias que je fréquentais, en fait, ils allaient en parler. Rien. J'ai juste vu sur Charlie Hebdo un article très précis, un petit peu plus détaillé, qui parlait de Dora Mouto, à qui fallait qu'elle présente ses excuses parce qu'elle a osé dire plaisir féminin en parlant de clitoris. Je me dis, c'est quoi ces délires? Et c'est là que je tombe sur une phrase d'une personne trans qui dit « Il n'y a aucune raison pour qu'une femme qui aime les femmes refuse de coucher avec une femme trans à cause de son pénis. » Ce qui m'est arrivé à 11 ans, m'est arrivé à ce moment-là. C'est la jolie petite vitrine là que je pensais qui montrait un joli petit truc. Il y a eu un pic à glace qui est arrivé, ça a fait ping, chrach, j'ai fait « Ah putain, chasseur de foufou !» C'est la seule chose qui m'est arrivée en tête. Je me suis dit, c'est un discours que j'ai déjà entendu. J'ai grandi avec des gars comme ça. Des gars qui sortent n'importe quel discours pour essayer de rentrer dans notre lit. Il y en a qui le font gentiment, il y en a qui le font en... Bon voilà, c'est des escrocs, mais c'est des escrocs gentils. Ça là, je me dis, c'est quoi ce discours? C'est n'importe quoi. Je retourne vers le journal, j'arrêtais pas d'écrire sur Mediapart et j'essayais d'envoyer des messages avec cette référence-là. Et je regarde le journal, ils ont changé la citation. Donc c'est Agresse Lévi-Trans. Et la phrase était devenue... Un tel ne comprend pas pourquoi les lesbiennes refuseraient de coucher avec les femmes trans à cause de leur pénis. Citation, à partir du moment où on se sent femme. Je dis, pourquoi ton pénis se transforme en clitoris, c'est ça? Non mais c'était mort, c'était mort. Il y a tout le discours compassionnel derrière, c'était fini. Il n'y avait plus rien. Non mais là, c'était fini à cause de ça. Mais vraiment, si un jour je croise machin, agresti, truc là, je lui dis merci de m'avoir ouvert les yeux, c'est grâce à lui. Vraiment.
Bon, j'arrête là. J'espère que vous aurez vraiment envie de continuer ce témoignage de Graziella, que je trouve excellentissime en fait. Plus je le réécoute, plus j'adore en fait. Son humour, sa clarté d'esprit, voilà, c'est waouh, excellent. Donc, j'arrête là. Je mettrai la référence du podcast Rebelle du genre. Vous pourrez continuer à l'écouter chez vous.